La première personne qui va intervenir maintenant dans cette deuxième partie de la session, c'est Pierre-Emmanuel Chaput. Et son intervention, c'est le titre de son intervention, c'est un état de la réflexion en cours autour du projet PER-EPIGA. Pierre-Emmanuel est membre du comité de suivi de l'EPIREVUE EPIGA, qui est un épijournal de géométrie algébrique. Il est président de l'association EPIGA et lauréat du projet PER-EPIGA, qui était au deuxième appel du Fonds national pour la science ouverte. Donc, je vais lui laisser la parole immédiatement. Je vais te laisser la parole tout de suite et il fait son intervention.
Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord remercier Emmanuel Perrin de m'avoir invité à donner un exposé ici et Antonio Mendes pour la présentation. Donc, effectivement, je vais vous présenter le projet PER-EPIGA. Donc, c'est un projet de pérennisation d'une revue en modèle Diamant. Vous allez voir, il y a quelques points communs avec le journal de taxonomie là, dont on a entendu parler juste avant. Avant de parler réellement du projet PER-EPIGA, je voudrais parler du projet EPIGA et puis aussi du choix qui a été fait du modèle Diamant. Bon, c'est comme ça. En vous parlant un petit peu du contexte de la publication scientifique dans le domaine sciences techniques et médicales, puisque bon, j'ai cru comprendre que parfois le modèle Diamant pouvait poser des questions, ou en tout cas qu'il y a des réalités économiques différentes selon les domaines. Donc, c'est peut-être pas inutile de parler de ça. Et je m'excuse par avance si pour certains ou certaines d'entre vous, ce que je vais expliquer est déjà bien connu. Donc, il y a trois principaux modèles commerciaux qui sont le modèle lecteur-payeur, auteur-payeur et sponsor-payeur. Alors, dans le modèle lecteur-payeur, on a donc des auteurs qui écrivent des articles scientifiques, puis qui soumettent leur travail au sein d'une maison d'édition, plus précisément, qui soumettent leur travail à un éditeur qui va chercher un référé. Le référé va évaluer l'article et proposer que l'article soit accepté ou refusé. Donc, ces trois parties du travail, la plupart du temps, ne sont pas rémunérées par la maison d'édition, qui va, proposer aux lecteurs d'avoir accès aux articles moyennant le paiement d'un abonnement. Donc, ces abonnements peuvent se faire titre à titre ou par bouquet, ou soit on choisit un ou un autre journal, ou soit on choisit tout un ensemble de journaux, ce qui pose la difficulté que, bon, il peut y avoir dans le bouquet des journaux intéressants et des journaux qui ne le sont pas. Alors, je vous donne quelques chiffres en ce qui concerne l'Université de Lorraine, dont je viens. Sur 9 ans, donc sur la période 2007-2016, bon, les chiffres ne sont pas très récents, mais enfin, le coût des abonnements à Elsevier a augmenté de 28% et à Springer et Wiley, ils ont augmenté de pas loin de 60%. Donc, en 2018, les dépenses d'abonnement à Springer en France, ça représentait 5 millions d'euros et à Elsevier, ça représentait 33 millions d'euros. Donc, il y a eu une certaine émotion, un certain moment par rapport à ce modèle économique et à l'augmentation importante des coûts qui n'étaient pas justifiés par des raisons techniques ou une amélioration des produits, etc., qui étaient le résultat simplement d'une politique commerciale. Et il y a eu par exemple en mathématiques une pétition qui a eu un certain retentissement lancée par Timothy Gowers qui s'appelait The Cost of Knowledge et des débuts de boycott, etc., donc, qui ont amené les maisons d'édition à changer un petit peu leur fusil d'épaule et à proposer un autre modèle qui est le modèle auteur-payeur. Donc cette fois-ci, l'auteur non seulement produit l'article scientifique, mais il doit aussi payer ce qu'on appelle des frais de traitement pour son article, donc en anglais Article Processing Charges. Donc, ça, c'est le modèle auteur-payeur en open access pur. Et puis, il y a la variante en open access hybride. où l'auteur a le choix de payer ou de ne pas payer ses frais. Et s'il ne les paye, alors s'il les paye, l'article est en accès libre. Et puis s'il ne les paye pas, eh bien c'est le lecteur qui doit payer pour avoir accès à l'article. Alors bon, ça, le modèle d'auteur payeur, c'est pas présente pas du tout une amélioration en termes de coût, puisque le coût de ces fameux APC a triplé entre 2013 et 2020 pour atteindre la somme de 30 millions d'euros en France. Et puis il y a un troisième modèle qui se développe de plus en plus, c'est le modèle sponsor-payeur. Alors cette fois-ci, on a une institution, par exemple une université ou une fondation, qui va payer à la maison d'édition pour que tous les articles, tous les auteurs faisant partie de de cette institution puissent, disons, publier dans les revues détenues par la maison d'édition sans frais supplémentaires. Et puis bon, alors toujours, c'est toujours un peu hybride, c'est-à-dire que si cela ne fonctionne pas de cette manière-là, on peut aussi accéder en payant, enfin les lecteurs peuvent accéder aux articles en payant. Et donc c'est ce qu'on appelle les accords transformants qui sont souvent négociés au niveau national, ben, notamment en Allemagne ou au Royaume-Uni. Hein? Alors bon, on peut résumer cette situation de manière assez simple, hein, puisqu'il y a une expression qui traduit très bien cette situation, c'est se faire tondre la laine sur le dos. Voilà. Puisque les scientifiques rachètent à prix d'or une richesse qu'ils ont créée, évaluée et sélectionnée. Donc, c'est dans ce contexte qu'on a eu envie de développer, enfin évidemment, de s'inscrire plutôt dans un courant qui existait bien sûr bien avant, qui est le modèle Diamant, donc, qui est gratuit pour les lecteurs, gratuit pour les auteurs, et quand même l'édition a un coût, donc on demande une contribution libre et modérée à des institutions. Donc je vais préciser un peu donc, le modèle qui a été retenu pour le projet EPIGA. Donc EPIGA, bon, ben, c'est un journal en géométrie algébrique, donc c'est une branche des mathématiques qui étudie les formes géométriques qui sont définies par des équations polynomiales. Je ne vais pas insister davantage. Donc c'est un overlay journal, ça veut dire que les articles sont, on dit publiés, mais on pourrait dire plus exactement labellisés, c'est-à-dire qu'en fait les articles, pour être soumis, ils doivent être déjà présents sur une archive ouverte, que ce soit Archive ou HAL, par exemple. Ils sont référés selon un processus habituel de simple aveugle, c'est-à-dire que les auteurs ne connaissent pas l'identité du référé, mais le référé connaît l'identité des auteurs. Et puis, comme pour la revue de taxonomie, en fait, on fonctionne avec comment dire, deux organes, un comité éditorial qui est en charge de la partie scientifique, donc de l'évaluation et de la sélection des articles, et puis un comité de suivi, donc je vais plus rentrer dans les détails concernant le comité de suivi. Donc, ce comité de suivi se compose donc de moi-même, qui suis président de l'association EPIGA qui détient le journal, qui s'occupe de la relation avec le monde de la science ouverte, de répondre aux appels à projets et donc de trouver un modèle économique et de faire fonctionner un modèle économique pour la revue. Je suis ensuite aidé par Lucas Fraisse, qui est le secrétaire de cette association. Benoît Clodon, lui, est plus dans la relation entre les éditeurs, les auteurs et la plateforme Episcience. Donc, si les auteurs s'interrogent sur ce que l'article est en train de devenir, s'adresse à lui. Si les éditeurs, par exemple, ont des difficultés avec la plateforme ou qu'il y a un problème technique, il s'adresse à lui et puis il fait la relation entre ces personnes et les personnes de Episcience. Et puis Gianluca Pacienza est en charge de la communication. Il essaie de faire connaître la revue par différentes initiatives sur lesquelles je vais revenir par la suite. Alors, donc c'est un journal qui est hébergé sur la plateforme Episcience. La plateforme Episcience est un projet du Centre pour la communication scientifique directe qui a subi une longue maturation et qui a été opérationnel depuis 2015-2016. C'est à peu près le moment où on a eu envie de créer ce journal. Et donc, on a décidé de faire héberger le journal sur cette plateforme, qui rend les services suivants. Donc, déjà, il y a la gestion du flux éditorial, c'est-à-dire les articles arrivent, ils sont affectés à un éditeur, on cherche un référé, on a des rapports des référés, une décision est prise, etc. EpiScience héberge le site web et donne les liens pour accéder aux articles, achète et gère les identifiants numériques des articles, apporte une certaine visibilité à la revue, et puis comment dire, nous dédie une personne en charge spécifiquement du journal. Et c'était en particulier, bon, c'est encore utile pour faire évoluer la plateforme, répondre à des problématiques techniques, etc. Mais ça a été aussi très utile au début, lors de la phase d'élaboration du projet, hein, puisque j'avais une certaine expérience que nous, on n'avait pas, puisqu'on était complètement débutants à la matière. Alors, le bilan après 6 ans de fonctionnement est très satisfaisant, car nous avons bénéficier du soutien de la communauté scientifique. On a vu dans l'exposé de Laurent Romaric que en mathématiques, il y a beaucoup d'articles qui sont en accès libre, et je pense que c'est peut-être une particularité de cette thématique, que les gens sont sensibles à cette question-là. Et donc, ils ont voulu soutenir la revue en soumettant leurs meilleurs articles. Donc pour le premier volume, il y a un volume par an. Donc pour le premier volume en 2017, on avait comment dire, demandé à des collègues de soumettre des articles. Et donc il y a des gens assez prestigieux qui ont soumis, donc un médaillé Fields et deux récipiendaires du prix Shaw. Et puis ensuite, c'était plus des soumissions spontanées. Et on publie en moyenne 20 articles par an de qualité scientifique croissante. Ce qui fait qu'on est à un niveau, à la fois en termes de volume de publication et de qualité, comparable aux meilleures revues scientifiques spécialisées du domaine. Donc, en mathématiques, le très haut du panier des revues, ce sont les revues généralistes. Et puis ensuite, il y a les revues plus spécialisées. Et donc, c'est là que nous nous situons. Et puis donc, comme je le disais, le projet EPIGA, ce n'était pas seulement de publier des articles de maths, c'était aussi de s'inscrire dans ce mouvement de la science ouverte, et en particulier le projet EpiScience. Et donc, depuis la création de notre journal, il y a 3 autres journaux qui ont aussi été créés, souvent un peu avec des discussions qu'on a pu avoir avec eux au moment de leur démarrage. Et puis, il y a 2 journaux qui existaient préalablement, qui ont migré sur la plateforme EpiScience, un de maths et un d'informatique. Alors, j'en viens maintenant au projet Père Epiga en lui-même. Donc, qui répond à la question suivante, c'est que jusqu'à l'année dernière, on avait un fonctionnement entre guillemets à coût zéro, c'est-à-dire plus exactement à coût caché. Et il y avait en particulier une tâche assez fastidieuse et répétitive qui consiste à mettre aux normes les articles une fois que ceux-ci ont été acceptés, donc qui étaient effectués par des collègues de manière bénévole, enfin en tout cas voilà. Et on a souhaité donc externaliser ce travail-là en utilisant une prestataire, ce qui demandait un financement. Et donc, on a présenté ce projet au FNSO. On a obtenu un cofinancement du FNSO et de l'Université de Lorraine, qui nous assure donc 7 000 euros par an pendant 3 ans. Donc, 7 000 euros, ça correspond à ce dont on a besoin par rapport à notre volume de publication. Ça, c'est le premier volet du projet Père Epiga. Et puis, il y a un deuxième volet qui est plus de l'ordre de la prospective ou de la réflexion sur un modèle pérenne. Donc, il y a un petit peu 2 facettes au questionnement qu'on peut se poser. C'est d'une part, comment financer une revue qui est en modèle diamant, c'est-à-dire qui, par définition, ne demande pas ni aux auteurs ni aux lecteurs de payer. Et puis, l'autre façon de voir les choses, c'est comment facturer quelque chose de gratuit? Bon, ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est quand même une question sur laquelle on bute d'un point de vue administratif. Parce que quand on demande à des acteurs comme des bibliothèques universitaires de nous soutenir, elles sont prêtes à le faire, mais il y a juste un petit hic, parce que elles ne peuvent pas s'abonner par définition. Donc, il faut qu'elles justifient quand même leurs dépenses. Et donc là, il y a un petit. Voilà. Un petit souci et un petit vide à combler. Alors, je mentionne par exhaustivité un autre projet qui est le projet Koala, donc qui a été initié par une cellule de l'université de Hanovre. Donc, c'est un projet de fonctionnement par consortium. Et donc, c'est-à-dire qu'on a plusieurs journaux. Donc, il y a 7 journaux de maths et puis d'autres journaux, je crois une vingtaine de journaux au total, qui sont financés simultanément, et ils sont ils sont financés par un ensemble d'institutions qui financent donc tous ces journaux. Alors, j'en arrive on dirait une critique du modèle donc les quelques points de vigilance. Donc, premièrement, le financement est limité dans le temps. Deuxièmement, il y a un certain vide administratif, comme j'ai pu en parler. Je voudrais poser aussi une question, parce qu'il me semble qu'il y a une petite dérive. Quelle autonomie pour les journaux diamants? Donc, nous, on répond à des appels à projets qui sont très précis. Donc, déjà, il y a des dépenses éligibles, il y en a qui ne le sont pas. Si je peux prendre encore du temps, en seconde. 5 minutes? Ah, d'accord. Ok, très bien. Cette question-là, je peux la développer un petit peu. On a répondu à cet appel à projet du FNSO, mais bon, comme vous le savez, il y a des critères assez précis et toute dépense n'est pas éligible. Et puis après, le projet dure 3 ans. En cours de projet et à la fin du projet, on doit justifier que les dépenses correspondaient à ce pourquoi on avait demandé de l'argent. Et puis, il y a aussi, il me semble parfois, des demandes un petit peu exagérées de certains acteurs envers les revues vertueuses en termes de transparence ou de demande de données biométriques ou de choses comme ça. Donc, on nous demande, par exemple, que le budget, de rendre public notre budget, de rendre public notre mode de fonctionnement, etc. Alors, bon, on comprend qu'il y ait des raisons à ça et même y souscrire. Mais je me demande quand même si on ne passe pas d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire qu'on continue quand même à payer les maisons d'édition où on ne leur demande pas ce qu'elles font de l'argent qu'on leur donne, hein, et on sait d'ailleurs ce qu'elles en font, c'est quand même en grande partie de rémunérer les actionnaires. Et puis, à l'inverse, il y a des revues vertueuses et pour lesquelles on est vraiment très, comment dire, très pointilleux, et on leur met un certain nombre de contraintes techniques et administratives. Hein, donc, je me dis qu'on pourrait peut-être aussi laisser le champ libre à l'oiseau. Et je vous présente quelques projets et perspectives qu'on a et qui nous demandent une certaine souplesse pour pouvoir les réaliser. Donc, l'année prochaine, en juin 2024, on va organiser une conférence de géométrie algébrique à l'Institut Henri Poincaré à Paris, au nom du journal. Donc, c'est une manière de rendre visible le journal. Qui va avoir un certain budget. Hein. On part sur un budget de 30 000 euros, c'est une conférence internationale. Et au cours de cette semaine de conférence, il y aura une demi-journée qui sera consacrée à traiter des questions d'édition scientifique et de sciences ouvertes. À cette demi-journée, on compte, le public sera plus large, bien sûr, que la géométrie algébrique. Et puis, on compte inviter la presse, etc. Et on compte aussi décerner un prix pour la science ouverte en mathématiques. Alors, ce prix, c'est quelque chose qui est en cours d'élaboration, auquel on plus ou moins vient de penser. On s'est associé aux 3 sociétés savantes de mathématiques. Et l'idée, donc il existe déjà de nombreux prix qui récompensent articles particulièrement saillants ou un chercheur particulièrement brillant ou que sais-je. Alors là, l'idée est différente, c'est de récompenser une initiative qui va dans l'intérêt de la communauté mathématique. Hein, donc il peut s'agir soit de développement de logiciels libres ou de plateformes collaboratives. Donc c'est des plateformes où en fait les chercheurs en maths peuvent poser des questions. Et puis d'autres chercheurs y répondre. Et puis ensuite, on peut voir les questions et les réponses qui ont été posées. Donc moi, j'utilise ça assez fréquemment hein, quand je veux savoir l'état de l'art sur une question ou des choses comme ça. Ou encore un projet d'édition scientifique. Donc voilà, donc là, ça demande aussi un financement et une certaine souplesse dans l'utilisation des crédits. Je vous remercie pour votre attention.